France Inter.
Ce soir, nous, on célèbre le talent, que dis-je le talent, le génie d'un des plus grands artisans de la musique soul et qui vient tristement de nous quitter. C'est parti. Les générations connaissent ça, Green Onions, un des instrumentaux les plus diffusés au monde depuis sa création en 1962. Oui, on l'a entendu dans la BO du célèbre film American Graffiti, qui a fait connaître dans le monde entier en 1973 le nom du producteur et cinéaste George Lucas, vous savez, le créateur de la saga Star Wars. Puis aujourd'hui, vous l'entendez encore, Green Onions, dans le jeu vidéo Grand Theft Auto et, paraît-il, dans une attraction du parc Disney à Anaheim en Californie. Bon, Green Onions, c'est donc le titre de cet instrumental, a été créé un peu par hasard il y a plus de 60 ans, donc dans un studio de la ville de Memphis, dans le Tennessee, créé par un groupe qui s'appelait Booker T and the MGs. Alors Booker T, c'était l'organiste, Booker T Jones, et le guitariste qui lâchait ses petites phrases en saccade, comme de douces décharges électriques, avait pour nom Steve Cropper. Steve Cropper a été à la source d'un style de jeu rythmique à la guitare qui a marqué en profondeur la musique soul et le rock en général. Un style à la fois martial et swingant, aussi sobre, retenu et élégant qu'efficace et percutant. Et voici ce que disait Steve Cropper. « J'adore répéter les mêmes choses à la guitare, encore et encore, alors que d'autres guitaristes ne veulent même pas en entendre parler. » Le style de Steve Cropper, c'est un style qu'il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, tout le monde a cherché à imiter, à commencer par les Beatles qui avaient rêvé en 1966 d'enregistrer leur album Revolver au studio Stax à Memphis, le fief de Booker T and the MGs. Steve Cropper, c'était une sommité discrète. Le grand public ne connaissait pas son nom, mais c'était un géant, tout le monde le savait quand on aimait un peu la musique. Les lecteurs du magazine de musique britannique Mojo avaient d'ailleurs récemment élu deuxième meilleur guitariste de tous les temps, derrière Jimi Hendrix, Steve Cropper. Steve Cropper qui vient de nous quitter à l'âge de 84 ans. Et c'est une évidence, il fallait que je lui consacre une émission en propre. Tout le monde peut-être ne connaissait pas son nom, mais tout le monde évidemment connaissait sa musique, la musique qu'il a contribué à créer et à rendre immortelle, la musique soul. Alors le son et certaines des chansons les plus connues de Otis Redding, comme « Sitting on the Dock of the Bay » qu'il a coécrite et qu'on entendra, eh bien c'était Steve Cropper. Et puis bien sûr, tout le monde sait, il faut savoir que le pilier des Blues Brothers, c'était lui. Oui, si vous avez vu le film, le gars à la guitare au milieu, hein, vous savez, le barbu aux longs cheveux filasses, impassible, derrière ses lunettes noires, tandis que John Belushi et Dan Aykroyd, alias Jake et Elwood, faisaient leur pitrerie dans leur petit costume noir. C'était lui. Enfin, quand je dis pitrerie, ne croyez surtout pas que je le dise avec condescendance. D'ailleurs, les Blues Brothers ont eu, au tournant des années 70 et 80, l'immense mérite de connecter ou reconnecter toute une génération à la musique soul de l'âge d'or, hein, celle qui était née au milieu des années 60. Et puis, Steve Cropper, il faut le souligner, avait le plus grand respect pour les qualités de musicien de John Belushi et Dan Aykroyd, qui étaient à l'origine deux comiques de l'émission populaire de la chaîne de télévision NBC, Saturday Night Live. Belushi, d'ailleurs, disait Cropper, était un bon batteur et Aykroyd excellait à l'harmonica. Tout le monde connaît bien sûr leur réinterprétation du Soul Man, à l'origine créé par le duo Sam & Dave. C'était un titre qui avait été composé par deux des plus grands talents des studios Stax, à savoir Isaac Hayes et David Porter. Et Soul Man, eh bien, ça reposait sur un riff très rythmique, presque un pléonasme dans son cas, de Steve Cropper. Eh bien, vous connaissez les Blues Brothers, voici l'original de Soul Man, où l'on entend Sam Moore, moitié duo, s'exclamer. Mais à un moment, Play It Steve. Ça a été imité à l'identique une dizaine d'années plus tard par John Belushi des Blues Brothers. Et juste après Soul Man par Sam & Dave, vous entendrez un autre classique de la musique soul, Knock on Wood, interprété par le chanteur de Détroit Eddie Floyd, qui avait été coécrit avec Steve Cropper à Memphis. Steve Cropper qui a vraiment été l'homme à tout faire, le pilier des studios et des disques Stax. Je vous en dirai bien sûr plus d'un mot tout à l'heure.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
The Midnight Hour, la voix de Wilson Pickett dans son classique de l'année 1965, une chanson qui était le fruit d'une collaboration avec le guitariste Steve Cropper, tout comme celle d'ailleurs qu'on a entendue juste avant, Knock on Wood, par Eddie Floyd, un autre classique de la même période, c'est un peu sorti du même moule, d'autant que Wilson Pickett et Eddie Floyd étaient arrivés à Memphis depuis leur ville de Détroit, de l'autre côté des États-Unis, Memphis qui était en train de devenir vraiment la mecque de la musique soul. Steve Cropper, le guitariste, membre fondateur de Booker T and the MGs, était un géant dont on vient d'apprendre la disparition. Géant auquel, je le rappelle, je consacre le Very Good Trip spécial de ce soir sur France Inter. Alors je vous parle du studio et de la compagnie de disques Stax, qui est née il y a 68 ans déjà, en 1957 à Memphis. Memphis, vous savez, c'est la grande ville du Tennessee. C'est la deuxième en population après Nashville, mais elle est située bien plus à l'ouest, aux confins de deux autres États, le Mississippi et l'Arkansas. Il faut rappeler ce qu'a été Stax, c'est absolument primordial pour mesurer la portée de ce qu'a pu donner à la musique Steve Cropper. La compagnie de disques Stax a fait ses tout premiers pas, comme je vous disais, il y a 68 ans, donc en 1957. Des premiers pas rudimentaires. Alors Stax est évidemment connu pour avoir abrité les plus grands interprètes de la musique noire américaine, qui venaient principalement du sud et de la région donc de Memphis. Il faut néanmoins rappeler que la compagnie a été créée par deux blancs, James Stewart, un petit employé de banque qui jouait du violon country, et sa grande sœur Estelle Axton, une institutrice à la retraite. James Stewart venait d'entendre Ray Charles chanter « What I Say », il avait entendu ça à la radio, et ça avait été pour lui un choc, une révélation. Il a remisé son violon country au grenier ou à la cave, je ne sais pas, j'y étais pas, et il s'est mis à s'intéresser, plus que s'intéresser, se passionner pour ce qu'on appelait alors le rhythm and blues, un autre nom du rock'n'roll, si on veut schématiser un peu les choses. Estelle, sa grande sœur, a hypothéqué sa maison afin que elle et son jeune frère Jim puissent équiper un premier petit studio de fortune. Ils l'ont équipé d'un magnétophone Ampex mono. Alors la contraction des deux premières lettres de leurs noms respectifs, Stuart et Axton, a créé donc Stax. Et ce que ces deux-là ont fait à Memphis dans le contexte d'alors était plus qu'audacieux, était extrêmement risqué, puisque le contexte, dans le Tennessee comme dans d'autres états du sud-est des États-Unis, c'était encore la ségrégation raciale. Pour preuve, cette déclaration que James Stewart a faite à l'historien Peter Guralnick. Peter Guralnick, il avait interrogé il y a de ça plus de 20 ans, même 30 ans, pour son remarquable livre Sweet Soul Music, traduit en français chez Alia. Donc je cite James Stewart, « Je n'avais pratiquement pas vu un noir de ma vie jusqu'à l'âge adulte. Je ne savais pas que les disques Atlantic ou Chess existaient. Tout ce que je voulais, c'était travailler dans la musique. » Donc Stax, c'était à la fois un studio d'enregistrement et un son, un état d'esprit communautaire aux musiciens noirs et blancs se mêlaient, ce qui, je le souligne, en cette période et dans cette région des États-Unis, tenait du miracle et pour certains du scandale. C'était une sorte d'utopie réalisée dont la réussite fut exemplaire et dont le souvenir fait encore chaud au cœur aujourd'hui. C'est vrai, comme je vous le disais, les grandes voix de soul de Stax étaient noires. Cependant, les musiciens qui ont accompagné ces chanteurs et chanteuses étaient en partie blancs. Le groupe d'accompagnateurs de Otis Redding et de tant d'autres, Booker T and the MGs étaient de fait multiracial, moitié noir, moitié blanc. Steve Cropper et son copain, le bassiste Donald Duck Dunn, lui aussi disparu hélas, étaient blancs. Booker T Jones, le seul survivant, l'organiste, lui, était noir, tout comme le batteur Al Jackson Jr., qui est mort assassiné chez lui en 75, dans des circonstances d'ailleurs qui encore aujourd'hui restent assez troubles. Des musiciens, ces musiciens, en vertu des lois raciales qui prévalaient alors, n'auraient pas eu le droit de se produire ensemble publiquement. Et pourtant, ils avaient mis leurs forces en commun, et autant ces musiciens blancs étaient nourris de musique noire, évidemment à l'image d'Elvis, autant inversement, ces musiciens, chanteurs et chanteuses noires étaient nourris de musique country blanche. C'était cette fusion propre à Stax, et d'ailleurs les répertoires, je le souligne souvent, des musiques soul et country sont souvent strictement les mêmes. Alors, ce qui distinguait la soul de Memphis de celle de Chicago ou de Détroit, c'est qu'en fait, elle n'était pas urbaine. Elle avait l'âpreté et la simplicité brutale qu'on prête, je ne sais pas à tort ou à raison, c'est peut-être un préjugé, aux gens de la campagne. Ce qui n'excluait pas la finesse, bien au contraire, on l'a entendu. Voici une autre grande voix de Stax de cette période, celle de Johnny Taylor, mort il y a longtemps, hélas. Lui, il venait de l'autre Memphis, à West Memphis, dans l'Arkansas, de l'autre côté de la frontière avec le Tennessee. Et la chanson la plus connue de Johnny Taylor s'appelait Who's Making Love. Il est accompagné par Booker T and the MGs, et Steve Cropper a planté dans cette chanson un de ses riffs les plus mémorables. Quand vous entendez ça, vous mesurez aussi l'influence de cette musique sur celle des Rolling Stones. Enfin, vous n'avez peut-être pas besoin de moi pour le savoir. Why you lie? Cheating on your woman, that is something you've never. I Forgot to Be Your Lover, une chanson enregistrée en 1968 au studio Stax à Memphis par un chanteur du nom de William Bell. William Bell avait coécrit ce titre avec l'organiste Booker T. Jones, du groupe Booker T. and the MGs, qui avait accompagné le chanteur comme tous les chanteurs et toutes les chanteuses qui avaient enregistré chez Stax entre 1961 et 1970. Booker T. and the MGs, dont le guitariste Steve Cropper, qui vient de nous quitter, était un élément bien sûr essentiel. Alors un mot sur cette chanson, c'était une des préférées de la période pour Bruce Springsteen, qui l'a reprise dans son album, et bien de reprise soul, qui a publié il y a 3 ans, qui s'appelle Only the Strong Survive. William Bell, c'était un des plus grands chanteurs de Memphis. Pour certains, c'était l'égal d'un Otis Redding. Alors peut-être qu'il n'y avait pas chez lui la même puissance volcanique que chez Otis, peut-être plus de tristesse, de résignation et moins de souffrance dans sa voix, mais une émotion certainement comparable. Et William Bell est aujourd'hui l'un des ultimes survivants de cette période bénie. Alors tout le monde faisait un peu tout chez Stax, c'était plus une famille élargie qu'une entreprise. D'ailleurs, Steve Cropper avait lui-même prêté ses bras au chantier du studio d'enregistrement de Stax, et il était devenu l'employé le plus discipliné de Stax, le plus exemplaire, le plus dur à la tâche et le plus régulier aussi. Tout ou presque, en effet, reposait, paraît-il, sur ses épaules, et on le surnommait pour cette raison le colonel. Stax, c'était une véritable ruche. Un seul et même lieu, le 926 McLemore Avenue, un ancien cinéma situé dans l'ouest de la ville de Memphis, non loin des rives du fleuve Mississippi. C'est un lieu qui réunissait à la fois un magasin de disques, des bureaux, un studio d'enregistrement dans lequel se retrouvait une équipe de musiciens maison hors pair. On y travaillait 6 jours sur 7, on y créait, imaginait 3 à 4 chansons par jour. Alors d'où venait Steve Cropper ? Alors comme je vous le disais, donc, il était blanc, il avait passé sa petite enfance dans un village qui était situé dans le fin fond de l'état du Missouri, et son père qui travaillait dans les chemins de fer et sa mère qui était institutrice s'était installée en 1950 à Memphis. Steve s'était offert sa première guitare par correspondance à l'âge de 14 ans et toute sa vie, il allait rester fidèle à des modèles de Fender, une marque à laquelle d'ailleurs il est demeuré associé, d'abord la Esquire puis ensuite la fameuse Telecaster. Alors, Cropper branchait directement sa guitare sur l'ampli et il jouait sans aucun effet hormis la reverb. Ces modèles avaient été plusieurs. D'abord un guitariste de jazz du nom de Tal Farlow, c'est un musicien qui avait un toucher extrêmement délicat, comme le sien. Également un guitariste de blues bien connu, Jimmy Reed, qui avait aussi beaucoup marqué en son temps Bob Dylan, qu'il avait vu jouer à New York. Et puis il y avait aussi le grand guitariste de country et de rock'n'roll, l'illustre Chet Atkins, un des modèles de Mark Knopfler, de Dire Straits aussi. Et puis, comment ne pas mentionner Chuck Berry, la découverte du rock'n'roll a en effet tout changé pour Steve Cropper comme pour tant d'autres. Cela dit, le maître de Steve Cropper, celui auquel il s'est le plus identifié, n'est pas si connu que ça. C'était un certain Lowman Pauling, qui avait été le chanteur à la voix de basse, mais aussi, peut-être surtout, le guitariste et orchestrateur d'un groupe qui était essentiellement vocal de Caroline du Nord, qui venait de la ville de Winston-Salem, et qui s'appelait les Five Royals. Les Five Royals étaient auteurs et interprètes de classiques comme Think et Tell the Truth, qui ont été repris par James Brown, Ray Charles et pas mal d'autres. D'ailleurs, les notes à la guitare, les notes aiguës, brèves et cinglantes de Lowman Pauling au sein des Five Royals ont vraiment, ça s'entend, ouvert la voie au style de Steve Cropper. Cropper, d'ailleurs, a rendu hommage à Pauling dans un album qu'il lui a consacré et dont on écoutera tout à l'heure un voire deux titres, hein, si on a le temps. Voici, en attendant, une curiosité. C'est un enregistrement de 1970 qui a capté une jam réunissant 3 guitaristes vedettes des Studio Stacks. Il y avait Albert King, un grand guitariste de blues qui s'était fait connaître à St. Louis dans le Missouri, comme Chuck Berry et Ike Turner, qui venait à la fin des années 60 de s'installer à Memphis. Et il y avait aussi Pop, ça dépend comment on l'appelle, Pop Staples, le guitariste des Staples Singers, un groupe originaire de Chicago et qui réunissait ses enfants, notamment la grande chanteuse Mavis Staples. Et puis, bien sûr, il y avait Steve Cropper. Alors, chacun des 3, en 1970, était très pris par des tournées, des enregistrements à droite à gauche, et ils avaient dû enregistrer leurs pistes séparément. L'album s'appelle néanmoins Jammed Together. C'est la voix de Pop Staples, qui chante Tupelo, un titre qui évoque un déluge dans la ville de Tupelo, la ville natale de Elvis, hein, comme beaucoup savent. On entend le style si nerveux, si dense, si percutant de Steve Cropper, un joyau en tout cas.
Did you read about the flood? It happened a long time ago. Way in a little country town. Way down in Mississippi. It rained and it rained. It rained both night and day. Listen, the people worried and they began to cry. Lord have mercy. Where can we go now? There was women and there was children screaming and crying, Lord have mercy. In this great disaster, who can we go to now but you, Lord? In this great flood of Tupelo, Mississippi, it happened one evening, one Friday evening, a long time ago. It rained and it rained. The people of Tupelo was out on the farm
gathering their harvest. Dark clouds begin to rise, way back in the western horizon. One at a mighty time. Let me hear you tell them about it, Albert. Let me hear you tell them about it.
C'était la guitare Fender Telecaster de Steve Cropper, associée en 1970 à deux autres guitares, celle de Albert King et de Pops Staples, hein, le leader des Staples Singers. D'ailleurs, à propos des Staples, il faut que je vous informe que le 31 décembre, ce sera donc la soirée du réveillon, eh bien, nous rediffuserons l'émission spéciale que j'avais consacrée à une des plus grandes voix soul encore en activité, celle de Mavis Staples, la fille donc de Pops. Alors, je vous ai longuement parlé du miracle qu'a représenté l'association des studios et de la compagnie Stax dans les années 60. Cet esprit communautaire et multiracial a représenté dans les années 60 une sorte de rêve et même, on peut dire, une sorte d'utopie qui n'a tristement pas survécu à la dure réalité. De fait, Stax unissait des blancs et des noirs qui étaient liés par leur passion pour la même musique, hein, la soul du Sud. Mais tout a changé radicalement à partir du milieu des années 60 et il y a eu en 65 un événement qui a fortement marqué cette dégradation, c'était les émeutes du quartier de Watts à Los Angeles qui ont d'ailleurs été suivies d'autres émeutes raciales dans d'autres villes américaines et elles ont certainement joué, ces émeutes de Watts, un rôle de déclencheur dans la détérioration, d'ailleurs le mot est faible, du climat régnant entre la communauté noire américaine et disons les blancs de bonne volonté. Il faut rappeler ce qu'ont été ces émeutes parce qu'on a oublié leur violence. Pendant une semaine, ça a été véritablement la guerre à Watts. Il y a eu des barricades, des pillages, des incendies, la police a utilisé les moyens de l'armée, elle a fait face à une véritable guérilla urbaine, il y a eu 34 morts en tout, principalement noirs, mais, enfin, mais pas seulement, il y a aussi des automobilistes et des commerçants blancs qui ont été attaqués par les émeutiers, on a volé des frigos, des machines à laver, enfin tout ce qui faisait envie et qu'on n'avait pas les moyens de s'offrir, logique. Et il y a eu plus d'un millier de blessés en tout et environ 40 millions de dollars de dégâts, 40 millions qui auraient aujourd'hui environ la valeur de 400, si vous pouvez imaginer. Alors après ça et tout ce qui a suivi les émeutes de Watts, beaucoup de Noirs américains ont eu du mal à s'accommoder des grands discours pacifistes de Martin Luther King et à se convaincre de la nécessité de coopérer avec le pouvoir blanc pour améliorer leur sort. Regardez ce que ça nous a apporté, disait-il. Quelques années plus tard, Martin Luther King se faisait assassiner à Memphis, dans un motel où certaines des chansons les plus connues de Stax avaient été enregistrées. Alors après 68, après l'assassinat de King, le climat s'est vite dégradé. Le cofondateur blanc de Stax, Jim Stewart, et sa sœur aînée Estelle Axton se sont mis en retrait. C'est le noir Al Bell qui a pris leur succession et il a complètement changé l'orientation de Stax. Il a vraiment mis l'accent sur l'identité noire des artistes comme Isaac Hayes notamment, et puis des discours beaucoup plus radicaux se sont alors fait entendre. On a commencé à parler de Black Power et même chez certains d'une indispensable lutte armée contre le pouvoir blanc. Alors, dans ces conditions, Steve Cropper a préféré quitter Memphis et en 1975, eh bien, il a choisi de s'installer à Los Angeles où un autre chapitre de sa vie de musicien s'est ouvert. Il a travaillé avec plein de musiciens prestigieux, notamment John Lennon, sans oublier d'ailleurs, Michel Polnareff, et aussi Véronique Sanson. Alors, comme je vous le disais, l'entreprise des Blues Brothers a redonné à la fin des années 70 du service à Steve Cropper, puisqu'il s'est remis avec son copain Doc Dunn au service de cette musique soul qu'il avait contribué à créer, cette musique soul tendue, énergique, âpre, énergisante qu'il avait fait connaître. Cependant, Steve Cropper n'a jamais oublié Memphis, comme le révèle une très belle collaboration qui remonte à la fin des années 70 avec un des plus grands musiciens de la ville, j'ai nommé Alex Chilton, dans une magnifique reprise du Femme Fatale de Lou Reed pour le Velvet Underground.
Gone to smile. to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the streets. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease.
Sur France Inter, Mishka Assayas.
Churchyard is where I faded. She watched me while I fell unaided. And in my time, when God's army came and got me, I could not find my honeycomb. I could not find my honeycomb. I could not find. Cherry brown lips of maple, olive creams arise and face world. And in that town, as I walk as a deserter, I could not find my honeycomb. 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 I
curiosité, c'est une chanson qui a été écrite et interprétée en 2005, donc il y a 20 ans, par Frank Black des Pixies. Et oui, c'était lui. Honeycomb, c'est une chanson accompagnée avec cette exemplaire discrétion par Steve Cropper, quel toucher magnifique, aérien, léger comme une plume. Une des multiples collaborations de ces 20-30 dernières années de Steve Cropper. On l'oublie, je le dis entre parenthèses, mais Frank Black est aussi capable d'être un très bel interprète, singulier mais attachant de chansons soul et country. Et alors bon, c'est sûr, c'est pas Otis Redding, c'est pas Willie Nelson, mais la sensibilité est là et le sourire également. Je vous parlais de l'amour qu'avait Steve Cropper pour le guitariste Lowman Pauling et son groupe des années 50, les Five Royals, qui venaient du sud-est des États-Unis, hein, comme lui. Eh bien, Cropper a rendu hommage aux héros de son enfance en publiant en 2011, il n'y a pas si longtemps, un excellent album qui porte le nom de Dedicated, A Salute to the Five Royals. Et dans lequel il a convié des amis chanteurs, chanteuses et musiciens, notamment B.B. King, mais il y a aussi Brian May, hein, le guitariste du groupe anglais Queen, et puis à la regrettée chanteuse soul new-yorkaise Sharon Jones. Et c'est la voix magnifique, une des plus belles voix soul blanches, celle de l'anglais Steve Winwood, qui chante avec Steve Cropper cette reprise de 30 Second Lover des Five Royals. La voix de la Texane Lucinda Williams dans cette reprise de When I Get Like This, une chanson enregistrée à l'origine dans les années 50 par les Five Royals, un groupe qui était animé par le héros de Steve Cropper, le guitariste Loman Pauling, compositeur également. Donc le groupe s'appelait les Five Royals et Cropper avait repris cette chanson, invitant Lucinda Williams. C'était dans le cadre d'un hommage au talent donc de Loman Pauling. Il avait fait ça en 2011. Qu'est-ce que je peux ajouter à tout ça? Il n'existe pas un enregistrement plat ou ennuyeux auquel ait participé Steve Cropper. Je rappelle quand même une chose qu'on a oubliée, c'est qu'il a accompagné, lui et son groupe ont accompagné Neil Young en tournée il y a une trentaine d'années. Ils ont également été le groupe d'accompagnement du grand concert d'hommage à Bob Dylan en 1991 pour fêter ses 30 ans de carrière. Il y a George Harrison qui a participé, enfin plein, Lou Reed, enfin plein d'interprètes. En tout cas, vous pouvez tout explorer, vous ne serez jamais déçu. Et puis, j'ai même pas parlé non plus, c'est quand même important, du nombre de samples, d'échantillons sonores que se sont appropriés des rappeurs, producteurs de hip-hop de toutes sortes. On peut citer notamment Raekwon du Wu-Tang Clan, mais enfin, il y en a tellement, Roxanne Shanté, enfin, tous ont repris des échantillons de ce qu'avait enregistré Steve Cropper avec Booker T and the MGs. Alors, comment saluer Steve Cropper sans entendre la voix de ce chanteur dont il avait su transcender le génie? Oui, c'est Steve Cropper qui a co-signé avec le grand Otis Redding, juste avant sa mort si brutale et prématurée, une chanson en 1967 qui n'était pas tout à fait terminée, d'où la mélodie qui est simplement sifflotée à la fin parce que les paroles manquaient. Sitting on the Dock of the Bay, une des plus belles chansons jamais écrites et interprétées, sans doute ma préféré de tous les temps, j'ai jamais eu l'occasion de le dire. Merci à Steve Cropper, merci aussi à Otis Redding, là où il est. S'il y avait plus de gens comme eux sur Terre, et ça ferait du bien à tout le monde.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Une des chansons les plus belles jamais enregistrées, Sitting on the Dock of the Bay, c'était bien sûr Otis Redding. C'était la dernière chanson qu'il ait enregistrée avant sa mort brutale. C'est tout pour ce soir. Je remercie chaleureusement Vincent Godard qui a réalisé et mis en onde de l'émission, ainsi que Guillaume Cohener et Sébastien Lorieux pour le site internet de l'émission, sans oublier bien sûr Romain Couturier à la discothèque de Radio France.